On a une annonce, enfin on, c'est Samy qui a une annonce à nous faire.
Ben, vous annoncez qu'on va avoir 200 000 nouveaux habitants,
Ouh,
200 000 nouveaux,
ouais.
d'ici 50 ans. Et donc c'est l'Institut bruxellois des statistiques et des analyses et d'analyse, pardon,
Donc ça c'est 10% de par rapport à la population actuelle, non? Un peu moins?
On a un peu plus d'1 million d'habitants. C'est ça, 1 million d'habitants, 1 100 000, je dirais, hein, grosso modo.
Et donc ça fait 20%.
Ouais. Mais dans 50 ans. Mais ce qui est marrant, c'est que chaque année, j'entends qu'on nous annonce qu'on va avoir 200 000 nouveaux habitants, et que dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, et à chaque fois à cette occasion, ben, c'est là que les politiques sortent un peu et qui disent, ouais, ben voilà, peut-être qu'on va construire du logement, ce serait bien de faire de la densification. Cette question de la densification revient sur le tapis, le débat est relancé. Et voilà, moi j'ai une réflexion, c'était par rapport à un article qui est passé le 22 octobre, hein, dans le journal Le Soir. Un article qui parle justement de la question de la densification, et c'était par rapport à une annonce de Pascal Smet, qui est devenu monsieur urbanisme à la région bruxelloise, dans le gouvernement. Et donc voilà, lui qui était à la mobilité, on le connaissait à la mobilité, maintenant il fait de l'urbanisme. Et donc il annonçait dans cet article qu'il voulait des gestes architecturaux à Bruxelles, faire de la belle architecture, faire un peu plus de barres de logement, c'est-à-dire de faire des grandes tours, des quatre façades de 150 mètres carrés. C'est ce qu'ils annonçaient dans l'article, ils parlaient de ça. Et vous dire que surtout, ben, ces 200 000 habitants, il faudra, voilà, bien sûr les installer quelque part. Donc du coup, cette question de la densification, on revient avec cette question de la densification, est-ce que c'est bon ou pas? On sait que, voilà, à la Porte de Halles, à Saint-Gilles, c'est des grandes tours de logements, c'était des logements sociaux. On sait que rue Rempart des Moines, c'est aussi des barres de logements, des logements sociaux. Toujours le problème de l'entretien, les problèmes de l'entretien de ces tours. On ne sait pas toujours si elles ont été désamiantées, on n'en parle pas beaucoup, ça aussi. Et voilà, et chaque année, on parle un peu de rénovation, on remet ça sur le tapis, il faut rénover, il faut faire de l'habitat passif et tout, donc voilà. Et moi, je me dis, voilà, est-ce que ça a du sens de continuer à faire de faire des barres de logements? Est-ce que ça a du sens? Sachant qu'à Bruxelles, toutes les barres de logement que je vois, elles sont vétustes. Pas mal de barres de logement. Surtout des logements sociaux, particulièrement. Elles sont vétustes. Et là, ça donne un habitat précaire. Déjà, ces gens sont dans la précarité, on les met encore dans un habitat encore plus précaire. Donc, je sais pas, moi, je trouve que c'est jamais qu'augmenter les problèmes sociaux encore. Autre chose, c'est le bilan carbone. Je me pose des questions par rapport à, parce qu'on parle de développement durable maintenant, et on lui dit, voilà, on va démolir, on va construire. C'est l'exemple rue Rempart des Moines, où il va y avoir une démolition en construction. Peut-être que Liévin, tu vas peut-être en dire, peut dire quelque chose.
Est-ce qu'on peut juste positionner
le mois prochain.
Rempart des Moines dans la ville, pour les gens qui ne savent pas.
Ah oui, rue Rempart des Moines.
C'est cinq blocs des années 70,
voilà,
de logement social qui se trouvent tout près, derrière Antoine Dansart, en fait,
qui est perpendiculaire
dans le sud-ouest du Pentagone.
D'ailleurs, tout le monde de le quartier, les gens du quartier s'appellent les cinq blocs. Tout le monde s'appelle cinq blocs, c'est marrant. Et ce quartier, en fait, c'est ce qui est particulier. Moi, je me rappelle, donc j'ai vécu en logement social. J'ai fait partie des bénéficiaires de logement social du foyer bruxellois. Et à l'époque, on allait rue Rempart des Moines. Lorsqu'il y avait une plainte et tout ça, on se retrouvait au 7e étage d'un ascenseur, et ils avaient c'était un bureau dans un appartement. Donc vous rentriez dans un appartement témoin, et il y avait un bureau avec une grande baie vitrée, comme ça, parce qu'il y avait beaucoup de plaintes, il y avait beaucoup de gens qui venaient un peu excédés. Parce que vraiment, c'était. Voilà. L'exemple, c'était moi, à l'époque, j'ai dû aller pour ma mère qui payait un loyer modéré, mais qui a payé des charges, mais hallucinantes. On s'est retrouvé avec des décomptes de charges annuelles, mais c'était un truc de fou. Et à chaque fois, partir contester. Et puis eux, ils disent, oui, mais c'est consommé, donc vous devez payer, donc ça augmente la précarité. Maman, elle n'a pas beaucoup de sous, son loyer, il augmente. On se retrouve dans un bâtiment, un appartement vétuste. Voilà, les travaux ne sont pas faits. L'équipe technique, une fois qu'on les appelle, bah, ça met 1 an, 2 ans, 3 ans ou jamais. Voilà. Donc voilà, tout ça accumulé, je me demande, est-ce que ça a du sens de continuer à faire des barres de logement?
Est-ce que tu crois que c'est ce genre de logement-là qui fout la barre au ministre de l'Urbanisme?
Ah, mais ça doit l'enthousiasmer, parce que.
C'est des logements sociaux qui
c'est
veut
de, Moi, je parle de logements sociaux, mais lui, il parle pas vraiment de logements sociaux. Lui, parce que Pascal, il parle plutôt de travailler de concert avec les promoteurs, que si un promoteur arrive avec un chouette projet, ben, il faut l'encourager, il faut l'aider, il faut l'accompagner. Il faut lui proposer tous les avantages fiscaux qu'on connaît, hein, tous les avantages, les exonérations, des abattements.
En tout cas, à Bruxelles Mabit, on sera content s'il se dresse plein de phallus de béton comme ça au travers de la skyline. Ouais. Une ville pleine de bites, c'est pas mal.
Tant qu'elle nous habite. Et déjà, pour dire... Et où j'en étais, pardon, j'ai perdu un peu le fil. Ce que c'était... Non, mais...
Trop de phallocratie ici.
Bah, écoute...
Il faut des tours, c'est ça que tu posais comme question.
Pardon ?
Est-ce qu'il faut des barres, construire des
oui,
barres ?
Oui, construire des tours, parce que j'ai vu que en fait, il y a moyen de faire exactement la même barre de logement, mais allongée, et d'en faire de quelque chose à une dimension humaine.
Mais est-ce que ça prend pas plus de place ?
Non,
sur le sol.
Non, en fait, il y a une emprise sur le sol, il y a moyen de faire justement, en n'ayant pas une trop grosse empire sur le sol, avoir la même capacité de logement. On va un peu monter, mais ça a une dimension humaine. Ça a vraiment une dimension humaine, quoi. D'ailleurs, Le Corbusier, lorsqu'il a voyagé en Algérie, il est parti à Gardaïa, c'est une ville qu'il a visitée dans le Mzab, dans une région dans le sud de l'Algérie, dans le désert. Et en fait, c'est une ville qu'on appelle la Pentapole. Il y a un édifice central qui est une mosquée, et tout est construit en colimaçon. Et toutes les maisons sont super collées, sont toutes petites et accolées. Et elles sont suffisamment hautes pour qu'il y ait de l'ombre, et donc il fait super frais alors que vous êtes en plein désert. Mais c'est hyper dense, ça grouille de vie. Et c'est ça qui l'a inspiré pour faire des logements sociaux, des barres de logements. Mais lui, il les a verticalisées alors qu'elles étaient horizontalisées. Donc voilà. Et pour en revenir un petit peu à notre politique bruxelloise, parce que là, je m'égarais, je partais dans le désert.
J'ai voyagé.
je me dis, voilà, on parle surtout maintenant du bilan carbone, de développement durable. On dit que voilà, ben on va faire des tours de logement, des tours de logement et faire des espaces publics au milieu. Sachant que ces barres de logement, ben c'est des ombres portées, c'est des vents induits.
Vents induits, c'est ?
Les vents induits, ben ça, le fait que soit les tours, plus elles sont hautes, et si tu te retrouves au pied de la tour, ben tu reçois un coup de vent, ça attire le vent.
Comme la tour Madou, quoi.
Comme la tour Madou, comme si tu as l'occasion, bon maintenant, quand tu arrivais à Port de Namur, quand tu montais à Port de Namur.
La place Lumumba.
Oui, voilà, la place Lumumba. Tu partais en général, c'était bien. Voilà,
on s'engouffre, quoi.
Oui, d'ailleurs, voilà. Et je voulais dire par rapport à ça. C'est que je me demande vraiment si ça va être du développement durable, puisqu'on parlait de réaménagement de la place, parce qu'on dit voilà, maintenant on va faire des espaces verts au milieu de ces grandes tours, que finalement c'est peut-être bon pour l'écologie, pour le durable, parce qu'on va pouvoir faire de la verdurisation, puisqu'on va libérer de l'espace public, et donc on va permettre encore, comme les politiciens aiment le dire, c'est permettre à verduriser et à permettre aux citoyens de se réapproprier l'espace public. Mais voilà, moi je vois jamais que du contrôle social, je vois jamais que des aménagements qui sont parfois impersonnels, qui correspondent pas du tout à la caractéristique du quartier, de la population, des gens, des demandes. On dit souvent voilà, aux habitants, c'est quoi, qu'est-ce que vous en pensez du projet et tout. On écoute leur avis, mais on les prend pas souvent en considération, quoi. Moi, ce que j'ai observé, souvent voilà, ils ont souvent un vote consultatif. Souvent, on leur demande tiens, qu'est-ce qu'ils pensent. Mais en dernier sort, c'est pas eux qui décident, de toute façon. Donc voilà, moi je me dis, est-ce que tous les 10 ans, tous les 5 ans, on va nous lancer à chaque fois, il va y avoir 300 000, 200 000 nouveaux habitants, qu'à chaque fois, on va pouvoir justifier le fait de devoir faire des tours de logement. Je trouve que voilà, pour avoir une ville à dimension humaine et durable, je pense que cette idée de tours de logement, je trouve que c'est pas une très bonne idée. Voilà.
On peut sentir en tout cas un tour de chauffe un peu du nouveau gouvernement. On sait aussi que c'est les deux ministres socialistes qui ont en main en fait le développement du territoire et pour l'autre, disons, l'esthétique et les quelques permis à signer pour l'urbanisme, pour Pascal Smet. Et je voudrais juste signaler qu'il y a l'ARO a pas mal réagi dans le cadre, donc l'atelier de recherche et d'action urbaine, hein, une vieille association bruxelloise qui se bat encore. Et ils nous disent que, enfin, ils réagissent assez fort à tout ça, et ça se fait aussi dans le cadre de 10 plans d'aménagement directeurs, notamment au quartier Vart, à Josapha et à la rue de la Loi, où les gabarits qui sont permis sont particulièrement grands. Là-dessus, la presse s'en empare, la presse s'empare pas tellement du débat, et c'est ce que je voulais vous citer, un article de la chef du Soir, Véronique Lamquin, qui parle de l'importance du socle dans un de ses petits papiers d'humeur. Upside, 140 mètres au bord de l'eau a séduit, surtout des propriétaires, et relancé le débat. Consacré dans la Bible du développement de la ville, le plan régional de développement durable au chapitre intégration d'immeubles élevés. Ce n'est pas une fin en soi, mais cela peut contribuer à la densification et la valorisation de la ville. Dans ce document de 2018. Et donc, elle parle du fait que la réflexion redémarre, et au sujet de l'esthétique d'abord, plus question de poser un bloc de béton monolithique qui referme l'espace public. On évoque désormais l'exemplarité architecturale, l'audace, souvent freinée ces dernières années par la frilosité publique, administrative ou budgétaire. Le socle du bâtiment devient une donnée cruciale de tout projet. Les premiers étages d'un immeuble sont ceux qui accrochent ou qui griffent l'œil. Ils doivent être intégrés dans l'espace public, aéré et ouvert. Vous voyez donc comment la plume du quatrième pouvoir est aussi capable de se mettre en ligne avec le premier, qui veut qu'on puisse construire et changer nos perspectives. Donc d'ici, déjà, à Radio Panique, on a quelques flèches autour de nous. On réside ici l'Union Européenne, là-bas le Vlaams Belang, et puis de l'autre côté la Fédération Automobile. Eh bien, c'est dans le projet de construire des tours de 115 mètres de haut. Et c'est quelque chose qui se discute pour l'instant avec les plans d'aménagement directeur. Et tu parlais de développement durable. Aujourd'hui, un nouveau plan climat a été annoncé par le gouvernement. Et il cite l'entièreté, mais jusque à la récupération de ton papier d'emballage, de tes tartines, quoi, des mesures. Par contre, il ne cite pas du tout le levier de calmer l'immobilier, ses destructions, ses reconstructions, sachant que le béton, l'acier... Le verre, c'est probablement les plus gros contributeurs carbone d'une région en pleine reconstruction.
Et je veux juste dire une chose importante, c'est que ce qui est important, c'est l'accessibilité du logement. C'est qu'à Bruxelles, la plupart des gens ont juste un problème à trouver un logement accessible. Ou trouver un loyer à 800 euros, c'est possible, il y a les moyens, mais 800 euros, c'est un fameux budget. Ça veut dire que quelqu'un qui a un petit salaire, et sans compter les charges et les déplacements, c'est juste être beaucoup... C'est augmenter la précarité des gens. Donc freiner ça, c'est ça la solution, en tout cas, pour permettre, en tout cas, certains pas mal de Bruxellois de souffler et de terminer des fins de mois et pas des fins du monde.
Tu parlais des 5 blocs, moi je vous invite à y réfléchir et à en parler, notamment avec un traitement artistique d'une pièce chorale, en fait, qui est une chorale de Bertolt Brecht, en fait, c'est des fans de cela, et ils ont écrit des textes au sujet des 5 blocs, et donc de la disparition de l'habitat social au profit d'autres choses, mieux réputées. Compatible, qu'il y aura moins besoin de plans de prévention policière comme Eneus, etc. Donc ce sera pour la prochaine émission.
Oui, non, mais pour le projet de Rempart des Moines, hein, c'est comme ça qu'ils le vendent, en disant que le rez-de-chaussée, il y aura des activités sociales, il y aura une crèche, il y aura une salle omnisport, ils vont pouvoir faire des championnats de mini-foot, de handball, ça va être ouvert sur le quartier, il y aura même des places de parking vélo pour les gens du quartier, tout ça, bref. Et ce que je trouve rigolo dans tout ça, c'est que on a en face de nous un bâtiment où il y a 350 logements. On lui dit qu'on va rénover, donc on démolit, on reconstruit, mais on reconstruit 240 logements sociaux. Tout le reste, et ils vont recompter, c'était 350 logements au total. Tout le reste va être repris par la régie foncière, et donc c'est aussi encore des loyers qui seront plus élevés, au prix du marché. Donc finalement, ça va juste permettre de gentrifier le quartier. C'est juste un moyen de le gentrifier d'une certaine manière.
Déménager quand on a le choix et dégager quand on n'a pas le choix, c'est aussi ce dont on va parler dans la programmation transversale, mais on accueille les programmateurs en fin d'émission.
Juste terminer, parce que le logement, le foyer bruxellois dit, mais comme on perd du logement, ne vous inquiétez pas. Effectivement, on perd une centaine de logements, mais on a des terrains. Et on a des terrains, et si certains promoteurs ou quoi voudraient construire sur ces terrains, c'est possible. Mais j'ai trouvé ça rigolo, quoi. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pas ?
L'urbanisme du bling-bling.
En parlant de bling-bling ?
Une autre proposition de ta part, toujours un morceau de rap.
Oui.
Belge.
Oui, un rap belge, James Dino, on le connaît, pour ceux qui connaissent le Grand Cactus, sur la RTB, il fait parfois des sketchs. Voilà, et il a un vieux, c'est un vieux truc, on le voit à Tour et Taxi, à l'époque où Tour et Taxi était encore un terrain vague. Maintenant, voilà, ça a urbanisé, ça a construit depuis. Et on a un chouette petit parc là-bas et tout, bref. Et on le voit, il parle juste de sa vie de chômeur. Et c'est un chômeur bling-bling. Je vous invite à écouter.
Mmh. beau matin, j'étais chez moi, je voulais partir, j'en avais marre du froid. Ma Golf 3 étant sur le parking, j'ai décidé de me barrer loin d'ici et de faire mes valises, de partir me faire dorer le cul sur une des plages aux Maldives. Mais comme j'avais pas de sous sur mon putain de compte épargne, j'ai décidé de faire le foufou et de partir en Espagne. J'ai passé un coup de bigot à mon pote au Cardizelli, j'ai dit fais tes valises, on dégage, on s'arrache d'ici, on est des ouf. Sourire de pinceau sur la bouche, puis on sortit de la cage pour aller chiller dans la brousse. Un peu plus tard, mon pote tue son pétard à deux pattes la douane. Petite gueule de première classe, on est sage comme des moines. Le douanier me dit pourquoi vous venez ici, j'ai dit pour acheter du shit, c'est logique. Il est bête, je l'ai pensé dans ma tête, il a fouillé ma turvoie comme si j'étais de la pègre. À part des putains de cul de joint, le putain était maigre. Waouh, on y est, doubilla, doubillé, short fleuré sur la plage, on va claquer du billet. Sur la page, tout y est, ouais, jute, papaye antillé. De bonne heure on soupirait, deux secondes après on roupillait. Top classe l'ami, on est des kings, on scintille, on flash l'ami. On est des chômeurs bling bling, top classe l'ami. On est des kings, on scintille, on flash l'ami. On est des chômeurs bling bling l'ami, classe l'ami, classe l'ami.